Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, pour toi, on est le vendredi 13, d'accord, jour un petit peu spécial. Et aujourd'hui, on va faire un podcast qui va suivre celui que j'avais tourné avec Marius sur les troubles du comportement alimentaire. C'est un podcast qui a beaucoup plu et j'ai eu beaucoup de retours dessus, d'accord. Et aujourd'hui, on va faire un podcast avec... j'aime pas dire une abonnée, mais quelqu'un qui écoute le podcast et qui m'a fait un retour dessus et qui m'a dit écoute, voilà, j'ai été victime d'anorexie, de troubles de comportement alimentaire, et j'aimerais du coup, si t'es d'accord, intervenir dans le podcast pour donner mon témoignage et pour peut-être sensibiliser un peu plus de personnes et pour pouvoir aider un peu plus de personnes. Donc aujourd'hui je suis avec Emma. Salut Emma, comment vas-tu?
Salut, ça va super bien.
Moi, ça va super bien aussi. Écoute, j'aimerais que tu te présentes, parce que je pense que moi personnellement, je te connais pas beaucoup. Ceux qui nous écoutent également. Donc, j'aimerais du coup que tu te présentes, tu expliques ce que tu fais dans la vie, etc. Et puis après, on va venir au sujet principal.
Ok. Alors, moi, c'est Emma, j'ai 19 ans. Je suis en études de kiné en Belgique, mais je suis française. Et... que dire de plus, j'aime beaucoup le sport, je m'intéresse pas mal à la nutrition, etc. J'ai un petit compte Instagram où je partage ce que je fais au quotidien, et voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien dans ma vie.
Donc du coup, française en Belgique, tu nous as donné quel âge tu avais ?
19 ans.
19 ans, donc assez jeune, et donc pour la particularité, t'as été entre guillemets, pas victime, tu as été atteinte de troubles de comportement alimentaire, d'anorexie notamment, et du coup on a préparé plusieurs questions ensemble avant le podcast, et j'aimerais du coup que tu nous expliques comment tu es tombée dedans, vraiment dans l'anorexie, dans ces troubles du comportement alimentaire, vraiment comment t'es arrivée à malheureusement tomber là-dedans.
Ok, déjà, faut savoir que tomber dedans, c'est vraiment le terme exact, parce qu'on s'en rend vraiment pas compte. Et au début de la maladie, pour nous, on n'est absolument pas malade, tout va bien, tout se passe bien. Alors que nos proches s'inquiètent, etc. Et moi, ça a commencé après la troisième, l'été entre la troisième et la seconde, du coup, où on s'intéresse un peu plus aux garçons, à son physique, etc. On va sur les réseaux, on suit des jolies nanas qui font du sport, qui sont pas un peu parfaites à nos yeux. Et on se compare sans vraiment s'en rendre compte. Et moi, j'avais une focalisation sur mon gras du ventre. Alors, j'en avais vraiment très peu, mais vu que j'étais très sportive, j'avais fait de la gym avant pendant 7 ans et j'avais arrêté. Et du coup, ça m'avait un peu fait perdre des abdos, etc. Du coup, il y avait une petite poche, on va dire, de graisse qui s'était installée par ici, et ça me plaisait pas du tout. Et du coup, j'avais commencé un peu, pendant l'été, en me disant « Ouais, il faudrait un peu que je me mette en forme pour la plage, etc. » Du coup, j'avais commencé à faire pas mal de sport, à manger très peu. Et dans ma tête, j'avais pas encore les connaissances sur l'alimentation que j'avais. Du coup, j'allais courir 8 km et après, je mangeais 3 endives et j'étais contente. Et du coup, la perte de poids était très rapide, même si ça se voyait pas forcément physiquement. Et mentalement, tout allait bien pour moi parce que justement, vu que je perdais du poids, tout allait bien. Et au fur et à mesure de l'été, j'avais perdu quand même à peu près 7 kilos sur l'été.
Et t'es partie à combien en termes de poids au début ?
Alors, je me rappelle pas vraiment, mais on va dire dans les 50 kilos, quoi.
Donc déjà, t'étais pas non plus... Enfin, t'étais un truc qui va être normal, à 50 kilos.
Ouais, totalement. J'avais vraiment pas...
C'était juste une phobie de ton ventre, en fait.
Ouais, j'avais vraiment fait une fixette là-dessus, et j'arrivais pas à m'en décrocher, alors que mon reste du corps était vraiment, normal, quoi. Donc voilà. Et du coup, je suis tombée un peu dans une sphère infernale, ou même quand j'avais perdu pas mal de graisse, ça se voyait, j'avais vraiment séché pendant l'été. Et sauf que vu que j'arrivais pas à me dire, là c'est bon, je suis heureuse avec le corps que j'ai, et j'ai continué, mais sans m'en rendre compte. Et du coup, c'était vraiment une spirale infernale où on tombe dedans, et vu qu'on voit des progrès, on se dit, ok, je vais continuer, je vais encore me priver. Alors aussi, l'aspect mental est super important, parce que quand on commence à se priver au début, c'est dur, on se dit « Ah ouais, je mangerais bien cette glace » ou « Ouais, je mangerais bien une pizza, machin ». Et une fois qu'on a réussi à mettre tout ça de côté et de se dire que c'était interdit pour nous, la privation, elle est même plus importante. En fait, on n'a plus ce sentiment de privation. Et c'est là que ça devient un gros problème parce que on se rend plus compte à quel point on n'a plus accordé de plaisir à l'alimentation.
Et alors attends, je te coupe, je vais résumer un peu tout ce que tu as dit pour l'instant. Tu vas me dire si j'ai bien compris un petit peu comment du coup tu as commencé à tomber dedans. Donc tu as commencé donc autour de 50 kilos. Tu as eu une période bah, forcément quand dans l'adolescence avec la puberté, etc. Tu t'intéresses un peu aux garçons, tu t'intéresses un peu aux
Ouais,
autres filles
voilà, à
notamment.
son physique, on fait attention.
Il y a eu le développement des réseaux sociaux. En
Ah
plus
oui,
de ça,
aussi,
donc
ouais.
du coup, je pense que tu étais inspiré par ce que tu voyais. Bon, il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi les magazines, etc. Et du coup, tu commençais à être complexé par un petit ventre qui peut-être n'était pas forcément énorme, mais pour toi, il devait être énorme. Souvent, on a tendance
Bah,
à
se focaliser sur
exagérer
ses
un peu.
complexes, ouais.
Voilà. Donc, du coup, tu as commencé avec le minimum de connaissances que tu avais à l'époque. Donc, j'imagine que tu as fait comme tout le monde, hein. Tu as mangé, du coup. De la salade, comme tu dis, tu t'es restreint, etc. Et du coup, tu as perdu. Donc, tu as dit en été, tu avais perdu 7 kilos. D'accord? Tu avais atteint plus ou moins ton objectif à cette période-là. Et puis, en fait, tu t'es pris entre guillemets au jeu de la perte de poids. D'accord? Et tu as décidé de continuer pour voir entre guillemets où est-ce que tu pouvais aller.
Ouais,
D'accord?
c'est
Parce que tu
exactement
voulais
ça.
toujours plus. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que bah forcément, ça entraîne d'autres phénomènes dont tu parleras tout à l'heure. Et moi, j'ai la question, c'est malgré le fait que du coup, tu perdais du gras, du gras, du gras, du gras au fur et à mesure, tu devais perdre de la masse musculaire aussi, j'imagine. Donc, tu faisais du sport, donc tu allais courir. Donc, forcément, au
Ouais,
début, on
je
fait
faisais
plus
que
de
du cardio.
cardio. D'accord? Ce qui n'est pas forcément ultra bon. Là, en plus, enfin, ultra bon pour ton objectif qui était vraiment la condition physique, si je dis pas de bêtises. Voilà, dans cet objectif-là, faire que du cardio, c'est
Enfin,
pas
je faisais aussi pas
forcément
mal
le
d'abdos,
mieux.
mais en soi, c'était après le sp enfin après avoir couru, donc
Bah, en fait, c'est assez classique. Ça veut dire que tu te focalisais sur là où tu voulais perdre du gras.
voilà,
Et du coup, en
exactement. En
conséquence,
pensant
tu disais si.
que
Voilà.
magiquement, ça allait fondre juste là où je voulais.
Et du coup. Moi, ma question, c'est comment tu te sentais au niveau de l'énergie à ce moment-là? Après, c'est cette. Donc, pendant la perte de poids, peut-être que ça t'impactait pas trop au début, parce que c'était le début. Mais vraiment, quand tu as perdu ces 7 kilos et que tu t'es dit, ok, je continue mon délire de ma perte de gras, comment tu te sentais au niveau énergie, au quotidien par rapport à ce que tu avais déjà vécu?
Bah, comme tu disais, pendant l'été, moi, c'était, enfin, j'allais super bien parce que je me disais, ouais, c'est cool, je fais attention à mon corps, à ce que je fais, etc. Mais quand j'ai repris les cours, du coup, en seconde, au niveau, enfin, à peu près vers l'hiver, etc., je me suis sentie vraiment pas bien. Enfin, c'est là que j'ai senti vraiment que, bah, il y avait peut-être un souci. Et mes proches commençaient à m'alerter, etc. J'avais froid tout le temps, j'étais irritable, j'étais pas forcément très ouverte aux autres, je me mettais un peu à part. Et c'est là que ouais, je me suis dit, bah mince, qu'est-ce qui se passe quoi? Parce qu'au début, bah, pendant l'été, j'étais vraiment super contente de ce que je faisais, j'avais plein d'amis, je sortais, machin. Mais quand j'ai repris les cours, c'est là que je me suis dit, bah mon comportement, il est pas normal. Et
Et
vas-y,
vas-y,
je t'écoute.
je te coupe juste. Donc, si je résume bien, là, donc, tu avais ton comportement qui était devenu un peu. Enfin, il y a surtout le côté social. Tu t'es enfermé, d'accord, pour
Ouais,
ton
carrément, ça c'est
objectif.
super important.
Donc, tu t'es enfermé. Et du coup, par exemple, donc, début septembre, donc, j'imagine à la rentrée, là, tu avais 7 kilos en moins. Et quand tu es arrivé, par exemple, à Noël, qu'est-ce qui s'est passé entre septembre et décembre, par exemple?
Bah, j'étais toujours un peu dans le même délire. Je courais un peu moins, mais je continuais à me sous-alimenter, clairement. Même sans le vouloir. Enfin, là, vraiment, l'anorexie avait pris le dessus. C'était plus moi qui me disais Emma, mange plus. C'était l'anorexie qui me contrôlait et je mangeais très peu automatiquement, en fait. C'était même plus du contrôle. C'était l'anorexie qui me contrôlait. Et à partir de décembre, donc quand je suis arrivée en décembre, j'ai commencé à perdre mes règles. Ça aussi, ça a été assez alarmant quand je l'ai dit à ma mère, elle s'est posé beaucoup de questions. Et du coup, c'est là que on a commencé à. Enfin, ma mère m'a dit, il faut qu'on aille voir un médecin parce que c'est pas normal. Et j'ai été voir un médecin et mon médecin avait déjà rencontré des cas d'anorexie et elle-même avait été anorexique dans le passé, donc elle a clairement vu ce qui se passait et elle a compris. Et elle a dit à ma mère, votre fille est anorexique. Et moi, c'était la première fois que j'entendais le mot. Enfin, que vraiment on me posait ce diagnostic sur moi, on va dire, et je l'acceptais pas. Je me disais non, c'est pas possible. Enfin, moi, non, je suis pas anorexique. Et ma mère, par contre, ça l'a beaucoup impacté. Et du coup, elle a décidé de prendre contact avec un pédopsychiatre. Et c'est quand j'ai vu ce pédopsychiatre que j'ai vraiment compris que ça allait pas du tout et il fallait que j'arrête mon délire et que vraiment j'étais atteinte d'anorexie, de troubles alimentaires.
Et je te coupe juste au moment où t'es allée chez le du coup pédopsychiatre,
c'est ça.
Pédopsychiatre. Donc là, forcément, ton entourage a compris que ça allait pas forcément. Donc je pense que c'est à partir de la période de perte de règles que ton entourage a commencé à s'inquiéter, j'imagine.
Ouais. Mmh. Okay, après, tout le monde n'était pas au courant, mais en tout cas, ma famille proche, on va dire.
Ceux avec qui tu imagines tes parents, etc. Peut-être tes frères et sœurs,
ouais,
tout ça.
Ouais.
Donc, et ma question, c'est alors, j'ai plusieurs questions, mais. Avant que du coup tu aies cette perte de règles, est-ce que ton entourage donc proche remarquait déjà un comportement un peu différent que tu pouvais avoir au quotidien, etc.
Alors mes parents, oui, clairement, parce que je ne m'alimentais pas comme eux, je refusais de manger comme eux. Quand ils mangeaient, enfin j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de ça parce que on se faisait souvent des petites salades un peu comme on voulait. L'été c'est souvent ça. Du coup voilà, enfin. J'étais pas trop exclue alimentairement parlant pendant l'été, mais après quand en hiver je refusais de manger des plats assez riches, etc. Emma, enfin clairement faut que tu manges plus quoi. Et moi je refusais. Du coup déjà là il y avait vraiment une séparation entre moi, enfin entre mon comportement et un comportement normal. Et au lycée c'était pareil. Enfin mes amis n'osaient pas trop m'en parler parce qu'ils voyaient que j'étais pas forcément ouverte au sujet. Au début c'était plus ah ouais Emma t'as perdu quand même pas mal de poids, mais c'était pas des remarques méchantes ou quoi, du coup moi ça me faisait pas plus réagir que ça, mais vu que je mangeais au self, ils voyaient très bien que je mangeais rien, que je finissais presque pas mes assiettes, que moi dans ma tête c'était ouais faut que je mange le moins possible, faut que ça soit je sois la personne qui reste le plus de trucs sur son plateau quoi, du coup
ah ouais.
ils ont clairement vu que il y avait vraiment un souci.
Donc, donc ça veut dire que tu étais vraiment dans le délire de pas du tout manger et de manger de moins en moins au fur et à mesure, quoi.
Ouais, après, je continue à m'alimenter, mais vraiment, j'ai jamais sauté de repas. Ça, faut le savoir, je me suis jamais fait vomir aussi, c'est un point important. Mais je mangeais que des choses pas du tout caloriques. Genre, je pouvais m'enfiler 3 bols de salade, une pomme et 3 cuillères de riz, quoi.
Ouais, donc c'était... C'était quand même très peu. Alors, c'est un point important parce que tu t'es rendu compte que, ouais, faut quand même pas que je saute de repas. Tu comprenais l'importance de quand même s'alimenter un petit peu. Et du coup, ouais. Lorsque t'es arrivé chez le pédopsychiatre, donc à ce moment-là, ton entourage proche s'était rendu compte, avait commencé à se rendre compte de plus en plus que ça n'allait pas forcément. Ok, que là, t'avais atteint un point un peu critique. Et quand t'es arrivé à ce moment-là chez le pédopsychiatre, où est-ce que tu en étais donc mentalement, même si tu en as déjà un peu parlé, mais surtout physiquement?
Alors, mentalement, pour moi, c'était assez rude cette consultation, parce que déjà, je me déplaçais assez loin pour y aller. Et du coup, je me disais, ouais, c'est quand même un rendez-vous important, quoi. Ça fait un mois que qu'on avait fixé le rendez-vous, etc. C'était vraiment un événement spécial. Mes parents et, ma mère et mon père étaient venus avec moi. Ils avaient vraiment bloqué leur jour pour venir avec moi, donc... c'était vraiment spécial. Et du coup, j'ai rencontré ce monsieur qui était assez âgé, mais avec qui je me suis très bien entendue. Enfin, en tout cas, je le remercie encore aujourd'hui. Et il m'avait pesé. Je me souviens plus vraiment à combien j'étais, mais j'étais en dessous des 40 kilos, en tout cas. Et c'est surtout, en fait, mon battement de cœur. Il m'a dit, c'est très grave. J'étais je sais plus comment on dit, je sais plus si c'est bradycardie ou tachycardie.
C'est bradycardie,
ouais, voilà, j'étais
voilà.
Donc mon cœur battait vraiment trop lentement pour mon petit corps, quoi. Il pouvait me dire que pendant mon sommeil, si pendant la journée j'étais vraiment très bas, pendant le sommeil c'était encore plus grave et là mon cœur il pouvait me lâcher. Et du coup ça m'a fait vraiment tilt et je me suis dit ah ouais quand même c'est grave. Et du coup il m'a dit bon ok on va prendre un prochain rendez-vous. Du coup, on espaçait les rendez-vous à peu près 2 semaines. Et le défi, c'était de pas perdre de poids. Le premier défi, c'était vraiment pas perdre de poids, parce que bah depuis l'été, j'avais que perdu, j'avais pas repris. Et au fur et à mesure des premiers rendez-vous, à chaque fois, je perdais 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes. Bon, c'est pas grand-chose quand on se dit, quand on parle de grammes. Mais en soi, quand on est dans un état de sous-nutrition et de sous-poids, les petits grammes, bah, ils comptent beaucoup. Et du coup, bah, à chaque fois, j'avais un peu le stress parce que je me dis, mais si j'ai encore perdu, il va encore me faire des reproches, me dire que ça va pas, que bah, je vais peut-être me faire hospitaliser. Parce qu'à chaque fois, il me disait, bah, Emma, si ça continue, va falloir faire des choses bah, plus importantes, on va peut-être devoir t'hospitaliser, etc. Et à partir du troisième rendez-vous, à peu près, où là, j'avais encore perdu du poids, il m'a dit, Emma, va falloir arrêter le sport. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, faut que j'arrête mon délire, vraiment, Emma, faut que tu te contrôles, parce que bah, pour moi, le sport, c'était super important, vraiment, genre, j'en ai fait toute ma vie, j'ai jamais vraiment arrêté, et si on m'enlevait le sport, clairement, j'avais plus grand-chose dans ma vie, parce que bah, mes amis, ils s'étaient beaucoup éloignés, enfin, moi, je m'étais beaucoup éloignée d'eux, et du coup, j'avais vraiment que le sport pour m'occuper, on va dire, et penser à autre chose, et les cours aussi.
Et d'accord, donc, t'as sorti pas mal d'infos. Je pense que ce qu'on peut déduire un peu de tout ça, c'est que tu t'es fait entourer donc d'un professionnel de la santé,
ouais,
là en l'occurrence.
Ça m'a beaucoup aidé.
Qui t'a bien accueilli, parce que du coup, tu dis que c'était quelqu'un que tu remercies beaucoup et qui a vraiment été gentil avec toi. Ça veut dire que voilà, il t'a mis dans un bon climat, donc ça c'est très important aussi, d'accord.
Ouais.
Si vous êtes malheureusement atteint d'anorexie comme Emma à cette époque-là et que vous voulez vous faire entourer, faut vraiment avoir un bon feeling avec la personne qui va vous entourer.
Ouais, c'est super important.
Super important. Alors généralement, ces personnes-là sont spécialisées, donc savent comment faire. Voilà, il se peut que en fonction de comment on réagit face aux différentes personnes, on peut plus ou moins bien s'entendre avec quelqu'un. Ça, c'est important. Ensuite, grâce à ça, donc, il t'a mis face à ta réalité. Donc,
voilà, c'est ça. Il a clairement fait ça.
Il a su trouver les mots. Donc, il a fait comprendre que, bon, concrètement, t'es dans un cas qui... Au premier rendez-vous, j'imagine qu'il t'a dit c'est pas encore trop grave dans le sens où bah, on va pas t'hospitaliser tout de suite. Parce
ouais.
que c'est pas, tu peux encore éviter. Mais, du coup, il t'a dit on va se fixer premièrement ça comme objectif. Il t'a pas directement dit il faut prendre du poids, il faut prendre du poids, il faut prendre du poids, il faut
Ouais, non, parce qu'il savait que ça allait pas marcher. Dire D'accord. à une anorexie qu'il faut manger, c'est idiot. Enfin, ça marche pas.
Alors, je suis d'accord avec toi. Et je pense que, si tu veux, alors, comme je le dis, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, d'accord, personnellement. Et je dis ça selon mon point de vue et ce que j'ai pu apprendre avec les différents témoignages que j'ai pu avoir. Je pense que quelqu'un qui est anorexique, tu me dis si je me trompe, et qui a des troubles de comportement alimentaire, est sensible. Ça veut dire que si on veut le sortir de sa zone de confort de façon trop forte, donc exemple qu'on vient de citer, c'est faut prendre du poids tout de suite, cette personne-là va se bloquer, va se renfermer sur elle-même. Ça va être une huître et elle va forcément rien faire du tout parce que ça va être impossible pour elle. Donc je pense que la solution qui t'a apportée de se dire on va essayer de ne plus perdre de poids pour commencer, c'est une bonne chose, parce que une fois que tu vas réussir à maintenir ton poids et que tu vas te rendre compte que, alors tu peux te rendre compte que ok, ça va mieux et que au final bah, mon poids est plutôt bon, et que ensuite le but de cette personne, c'est de te faire comprendre ok, la prise de poids va être nécessaire parce que ça va te permettre de relancer un peu, on va dire, la machine, et d'avoir un état physiologique qui est beaucoup plus efficace. Je pense que c'est assez important de procéder comme ça. Parce qu'en fait, généralement, quand une personne reprend du poids en étant anorexique, ça peut lui faire peur, mais les bénéfices en termes d'énergie, en termes de métabolisme, etc., peuvent contrebalancer un peu l'effet prise de poids. D'accord, je pense que c'est justement ça le but, de dire à quelqu'un, bah, faut que tu prennes du poids. Ok, alors voilà, c'est une idée. Je pense pas que ça marche pour tout le monde. Ça dépend du cas, mais je pense que premièrement, il y a l'étape par étape, c'est important, comme tu l'as évoqué par rapport à ton expérience, mais surtout essayer de reprendre du poids petit à petit, d'accord, peut-être en se donnant des paliers. Alors évidemment, pas des paliers infinis, hein, sinon on va carrément à l'autre extrémité du spectre du poids, mais juste se dire ok, je suis à temps, donc je sais pas, imagine t'es à 35 kilos, bah je vais essayer d'atteindre, sans objectif de temps, peut-être parce que le temps c'est stressant aussi, je vais atteindre peut-être 37-38 kilos. D'accord ? Petit à petit, en y allant étape par étape. Mais il faut accepter de... Il faut avoir sa réalité en face, se dire, ok, bah, je suis trop maigre, j'ai fait des conneries, c'est mauvais pour ma santé, je suis beaucoup plus maigre que je ne le vois dans la glace. Ok, donc ça peut être par se prendre en photo, d'accord, ça peut bien marcher parce qu'il y a une différence entre se prendre en photo et se voir dans la glace. Généralement, il y a des gens qui disent, ok, bah en fait, dans la glace, j'ai l'impression d'être hyper gros, alors qu'en fait, en photo, je suis hyper maigre, d'accord, ça marche aussi. Et puis, en plus de se mettre la réalité en face, se dire, ok, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que, bah, c'est d'ailleurs le podcast que j'ai sorti hier, c'est me dire que si je continue à faire les mêmes choses, j'aurai les mêmes résultats, d'accord ? Donc j'ai un problème, il faut que j'accepte de faire des choses qui me plaisent pas trop, que je peux faire petit à petit, progressivement, pour changer et pour atteindre un état de santé qui sera meilleur en fait. Donc ça c'est vraiment important. Donc je sais pas si t'as des choses à rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit, Emma.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que à partir du rendez-vous, il m'avait vraiment alerté sur le fait que je pouvais plus faire de sport. À ce stade-là, j'avais vraiment plus je me voyais pas grosse en fait. J'ai jamais eu trop cette sensation, de me regarder dans le miroir et de me dire, ok, j'ai des cuisses énormes. Je me voyais presque maigre. J'étais presque consciente de mon état de santé, enfin de mon état physique. Et du coup, ça déjà, ça m'a pas mal aidée parce que je sais que dans des cas, clairement, où les cuisses, elles font pas, enfin, elles font l'épaisseur d'un bras et que on les trouve énormes. Moi, ça n'a jamais été mon cas, donc déjà, ça a été, on va dire, un peu plus facile pour moi d'accepter la reprise du poids, même si elle était très très longue. J'ai eu, parfois je pouvais reprendre 1 kilo et juste le chiffre il me dérangeait, et du coup bah, je reperdais 500 grammes. À chaque fois c'était balance contre balance, enfin c'était très oscillant, on va dire. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'était de plus me peser parce que j'avais accordé beaucoup trop d'importance aux chiffres et du coup j'avais vraiment dit bah ok, bah je me pèse plus. Et c'était aussi un conseil de mon pédopsychiatre, il m'avait dit Emma, faut plus que tu te pèses, vraiment. Du coup, bah, ma mère avait enlevé la balance de la cuisine, clairement, enfin de la salle de bain. Du coup, je me pesais plus. Mais c'était vraiment un effort très, très. Ça me demandait beaucoup d'efforts de ne pas me peser parce que je me pesais presque tous les jours. Donc, c'était assez dur, mais ça vraiment était un élément déclencheur. C'est ce que je conseille quand des personnes m'envoient des messages et me disent bah, voilà, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qui peut m'aider. Moi, c'est mon premier conseil, c'est vraiment plus peser.
Alors c'est un conseil qui est assez important. En fait, si tu veux, j'ai une discussion après mon podcast, le premier podcast que j'ai sorti sur les troubles de comportement alimentaire avec Marius, et on m'a fait un retour en me disant que malgré tout, dans un hôpital, on va beaucoup insister sur le poids, mais souvent le fait de prendre du poids, ça permet, comme je le disais, de relancer un peu la machine, d'accord ? Parce que ça va permettre d'avoir un état de santé un peu meilleur, parce qu'on sera plus, on aura plus d'énergie au quotidien. Maintenant, il faut prendre aussi l'aspect mental, comme tu le disais. Le fait de se peser, c'est stressant, et ça revient à ce qu'on disait avec Marius, c'est le fait d'essayer de se détacher des chiffres le plus souvent possible. Je sais que c'est pas facile. On vit dans un monde, notamment avec Instagram, où on voit beaucoup de gens proposer de calculer leurs calories, etc. Maintenant, si c'est difficile pour toi de se fier à ces chiffres-là, t'es pas obligé de compter les chiffres constamment. Peut-être se focaliser sur comment je peux faire pour simplement avoir une alimentation. Quelles sont les bases d'une bonne alimentation ? Ok, bah, il me faut des glucides, des lipides, des protéines. Il me faut des protéines avant d'aller m'entraîner si je m'entraîne. Après l'entraînement, il faut des glucides avant, après l'entraînement. Des petits trucs comme ça. Et puis adapter les doses et surtout se fier sur son état de santé. Ça peut être tes battements cardiaques. Ok, si évidemment tu es atteint de bachycardie, c'est ça, au quotidien, et que bah, forcément ça veut dire que ton métabolisme fonctionne très mal, d'accord. Donc se fier sur ça, se fier peut-être sur du ressenti également, ça c'est super important. Après c'est adapté au cas par cas, c'est pas parce qu'on dit que le ressenti c'est important qu'il faut faire ça. Peut-être que des gens auront aucun problème à toujours se peser et à accepter de reprendre du poids, d'accord, c'est bien évidemment, mais voilà, je pense que le fait de s'en détacher, ça peut être une solution au départ. Maintenant, ce que l'on est déjà à 25 minutes de podcast, j'aimerais qu'il dure pas trop longtemps. J'aimerais du coup que tu nous expliques où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as réussi à t'en sortir, et si du coup tu as réussi à t'en sortir, comment tu as fait D'accord, quels ont été, bon, on a eu les éléments déclencheurs, le fait d'arrêter de se peser, le fait de voir le pédopsychiatre, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à l'état où tu es aujourd'hui?
Ok, bah déjà ça fait à peu près 2 ans que vraiment je me sens beaucoup mieux mentalement et physiquement. Vraiment j'ai retrouvé pas un poids normal encore, parce que je sais que j'ai encore du poids à prendre, mais mentalement je me suis vraiment détachée de toutes les pensées que l'anorexie pouvait m'imposer. Notamment grâce à des petits défis que je me donnais quotidiennement, à me dire ok, bon aujourd'hui je me fais plaisir, et aussi je comptais beaucoup mes calories, et ça a été pareil comme la balance, fallait absolument que j'arrête parce que c'était devenu obsessionnel, et c'était encore plus de contrôle. Et justement l'anorexie, pour s'en débarrasser, c'est de lâcher vraiment le plus possible le contrôle, parce que l'anorexie pour moi, vraiment, la définition, c'est un contrôle obsessionnel de toutes les facettes de sa vie. Et du coup, déjà, ça m'a beaucoup aidé de me donner des petits défis, genre de me dire, ok, aujourd'hui, tu comptes pas tes calories, tu manges ce que tu veux. C'était vraiment... ça m'a beaucoup aidé. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est pas français, ça, faut pas que je dise. J'ai retrouvé vraiment une relation avec l'alimentation beaucoup plus saine. Je mange vraiment, je me fais plaisir. Il faut savoir aussi que, un peu à cause de mes troubles du comportement alimentaire, je suis devenue végétarienne, et ça fait maintenant 1 an que je suis à peu près végétalienne, même s'il y a parfois des moments où, par exemple en sortie, etc., c'est plus compliqué, mais je mange plus du tout de viande, ni de poisson, ni d'œufs, ni de produits laitiers. Mais
Et du coup, je te coupe, du coup ça faisait partie d'un objectif qui t'a permis de t'en sortir.
Ouais, carrément. Et ça m'a beaucoup motivée.
Donc du coup, que t'adaptais à toi.
Ouais, ça m'a beaucoup motivée parce que mes proches me disaient non, c'est beaucoup trop dangereux. Déjà que t'es en sous-poids, arrêtez de manger de viande. Enfin, les produits laitiers, le fromage, machin, ça apporte quand même des bonnes sources de... Enfin, c'est une grosse part de l'alimentation, quoi. Du coup, ils avaient absolument... Enfin, c'était vraiment contre l'idée. Et moi, mon défi, c'était de me dire, ok, j'ai des valeurs que je veux défendre, parce que je le faisais surtout par éthique. Pas pour l'écologie, les animaux, etc. Je suis vraiment très sensible par rapport à ça. Et je voulais vraiment leur montrer que c'était possible, que même si on est végétarien ou végétalien, on peut reprendre du poids, on peut s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à leur montrer, et j'en suis aussi très fière. Et le fait aussi d'avoir adopté cette alimentation, ça m'a beaucoup aidée pour l'anorexie. Après, c'est pas forcément quelque chose que je conseille en tant qu'anorexie. Il vaut mieux le faire après. Après,
oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est se fixer des objectifs pour justement s'en sortir.
Voilà.
Et du coup, grâce à ça, on en revient à ce que je disais, c'est d'accepter de sortir de ta zone de confort et de faire les choses pour sortir de sa zone de confort, de se donner les moyens d'y arriver. Et en fait, moi j'insistais sur un point également, c'était quand on... n'est anorexique, donc quand on est vraiment très maigre et qu'on a des troubles de comportement alimentaire, la première chose à faire, et ça je pense que tu confirmes ce que je vais dire, c'est d'arrêter de se considérer comme anorexique.
Ah ouais, totalement.
Ça je l'ai déjà dit, mais du coup c'est de se dire ok, j'arrête de me considérer comme ça, parce que du coup ça catégorise, et j'ai pas envie de dire que c'est une secte, parce que c'est pas vrai, c'est pas du tout un bon mot, mais si tu veux, c'est l'image que moi ça m'en donne, notamment comme je disais sur Instagram, où quelqu'un qui fait 10 posts Instagram, voire 15, où il parle d'anorexie, en disant qu'il s'en est sorti, ça veut dire qu'il a toujours des restes, d'accord? Voire trop de restes, d'accord, on a encore des restes toujours, mais trop de restes, c'est de se dire ok, j'arrête de me considérer comme ça et je fais en sorte de changer, d'accord, parce que je sais que c'est pas bien, parce que je sais que c'est pas forcément un bon état de santé, et du coup je me bouge les fesses, tout simplement. Vas-y, je te laisse continuer.
Ouais, et juste, je voulais ajouter quelque chose par rapport à Instagram. Moi, quand j'étais vraiment dans une période, dans la période de descente, on va dire, j'avais commencé un compte Instagram où là, je parlais plus des défis que je me mettais au quotidien. Mais c'était vraiment un compte où vraiment, c'était juste personnel, où je me disais... je mettais un peu au point ce que je faisais pour améliorer ma santé, et ça m'aidait personnellement. Après, les abonnés, etc., je m'en foutais complètement. Mais sauf que je m'étais entourée d'une sphère où je suivais des comptes d'anorexiques, d'alimentation, etc., et ça m'a pas vraiment aidée. Du coup, aussi un conseil que je donnerais, c'est vraiment de faire le tri dans les personnes qu'on suit, parce que ça peut pas forcément être une aide. Ça, c'est assez important. Et... je pourrais continuer sur maintenant comment je me sens. Le fait d'avoir repris du poids, déjà, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mon sourire, parce que ça, c'était quelque chose aussi que j'avais perdu et qui était... ma famille me le reprochait beaucoup. J'étais une fille super pétillante, toujours à bouger, etc. Et l'anorexie m'avait complètement pris tous ces aspects positifs de ma personne, on va dire. Et le fait d'avoir repris du poids, d'avoir retrouvé une alimentation correcte, etc., ben, j'étais beaucoup plus heureuse au quotidien. Je souriais, je sortais, j'avais retrouvé tous mes amis. Du coup, ça m'a beaucoup aidée. Enfin, ça a vraiment été un boost dans ma guérison. Et aujourd'hui aussi, j'ai pu reprendre le sport, comme je l'aime. Avant, je faisais du crossfit. Là, j'ai arrêté, mais j'ai commencé la musculation. Et c'est vraiment un sport qui me permet vraiment de m'exprimer, de montrer que même une petite crevette de 50 kilos, elle peut pousser autant qu'une personne qui n'a pas forcément été atteinte d'anorexie. Et c'est une grande fierté pour moi, et ça me motive énormément au quotidien. Et ça me permet aussi de me lâcher sur mon alimentation, parce que je sais que j'ai du poids à prendre encore, que si je veux plus de muscles, faut manger. Donc clairement, par rapport à ça, je suis vraiment libérée, on va dire. J'ai plus de pensées... où je me dis non, il faut que je reperde du poids. J'ai plus ces pensées-là. Après, faut pas se le cacher que l'anorexie, on la supprime jamais de sa vie. Il y a toujours des petites pensées qui font « Ouais, non, Emma, tu vas pas reprendre un goûter. » Par exemple, si je prends un goûter, je vais pas prendre un autre goûter après ma séance. Alors que je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher, sachant que j'ai dépensé pas mal de calories pendant ma séance, il reste encore un peu de temps avant le repas. Voilà. Alors que ça... J'ai encore des petites pensées comme ça où c'est pas vraiment automatique, où je me dis j'ai faim, je mange. Il y a encore des pensées où je me dis non, là c'est trop. Du coup, faut se dire que il y a toujours des petites traces qu'il faut qu'on essaye de supprimer, mais c'est pas évident.
Écoute, Emma, je te remercie pour ton témoignage, il était super intéressant, d'accord. Je t'ai senti un peu émue en le racontant, je me trompe ou pas?
Ouais, toujours. C'est un sujet qui est encore un peu délicat,
j'imagine.
Ça me fait du bien aussi d'en
parler.
Non,
mais c'est carrément, puis si tu me l'as proposé, c'est que t'étais prête. Donc écoute, je te remercie. C'était touchant parce que du coup, t'as expliqué que tu t'en es sortie, d'accord, que t'as fait les choses pour te donner les moyens de t'en sortir, que tu t'es fait entourer, d'accord, ça rejoint tout ce qu'on pouvait dire auparavant là-dessus, que t'as compris ce qui t'arrivait, que t'as été honnête avec toi-même, qu'on t'a mis en fait, entre guillemets, face au mur de tes problèmes, qui t'expliquait, t'étais face à ça et qu'il fallait que tu t'en sortes, que ta façon à toi, c'était de fixer des mini-objectifs, d'accord, pour y arriver, que aujourd'hui, tu n'es pas encore totalement sorti parce que, enfin, on n'en sort pas totalement parce qu'il y a encore des petits restes, mais qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux et que tu as dû gommer 80% voire 90% de ces petits soucis là. Et puis voilà, c'était super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas se reconnaître à 100%, mais qui vont un petit peu s'identifier à ton histoire. Donc j'espère que en écoutant ce qu'on vient de dire, vous l'avez pas juste écouté pour entendre une histoire, mais vous l'avez écouté pour, si jamais vous êtes atteint de ça malheureusement, vous en sortir, d'accord ? Vous dire ok, si vous avez écouté ce podcast-là aujourd'hui, dès demain, voire dès aujourd'hui, d'accord, vous prenez un papier, un crayon, vous écrivez tout ce qui vous arrive, d'accord, et vous essayez de comprendre ok, quel est mon problème à moi. Ok, pourquoi je suis comme ça, en vous inspirant peut-être de cette histoire-là, des stratégies d'Emma pour s'en sortir. Et à l'instant où vous avez fini d'écrire tout ça sur votre papier, votre crayon, et que vous avez déterminé tous vos problèmes, vous essayez de mettre en place des solutions pour en changer. Et je veux que vous fassiez maintenant, d'accord ? Ça doit vous inspirer à changer, et c'est super, super important. Ok, et vraiment faites-le maintenant parce que c'est ça qui va vous permettre de changer. Donc voilà, je te remercie encore une fois Emma pour avoir fait partie du podcast. N'hésitez pas.
Merci à toi, merci beaucoup.
Carrément, c'était super cool. N'hésitez pas si vous avez kiffé le podcast et surtout que vous voulez aider des personnes à s'en sortir, à le partager. D'accord, c'est la seule chose que vous puissiez faire pour aider un maximum de personnes, même si vous n'êtes pas atteint de ce genre de problème, partagez-le, d'accord. Peut-être que dans vos proches, il y a des gens qui sont atteints de ça, d'accord. Et puis ça, c'est super important. Donc, si tu écoutes ce podcast, je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut.